Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
Dans cette histoire, je veux répondre à une question. Comment s'est fabriqué Elon Musk? D'où vient l'homme qui a inventé PayPal, les fusées SpaceX et les voitures Tesla? Cet homme, vous allez le voir, est parti de rien, jusqu'à devenir en 20 ans l'un des hommes les plus puissants de la planète. Pour répondre à cette question, je me suis plongé dans la passionnante biographie écrite par un journaliste américain qui s'appelle Ashley Vance, un livre sommairement intitulé « Elon Musk », publié en France par les éditions Erol. Pour le débrief, Guillaume Grallet, rédacteur en chef tech au magazine Le Point. Elon Musk, de sa naissance au succès, une histoire écrite avec Tuc Duel de Dieu le veut, réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
On s'est souvent demandé d'où lui venait ce drôle de prénom, Elon. Ce prénom qui lui a valu tant de moqueries toute son enfance. Eh bien, il lui vient de son arrière-grand-père maternel, John Elon Adelman, qui a vécu dans une cabane en rondin dans le Minnesota aux États-Unis. Et c'est là-bas qu'est né le grand-père d'Elon. Un original, déjà. Tour à tour chevaucheur de rodéo, chiropracteur, pilote d'avion et politicien. Les chats ne font pas des chiens. Et c'est lui, le grand-père, qui a décidé de faire migrer toute la famille en Afrique du Sud, à Pretoria. Et c'est lui aussi qui a mis en place pour ses enfants, dont la maman d'Elon, Mai, une sorte de laisser-faire éducatif. Il ne faut pas punir les enfants. Ils trouveront eux-mêmes le chemin vers le bon comportement. Une idée dont Elon sera l'héritier, au moins du côté de sa mère. La mère d'Elon grandit donc en Afrique du Sud. Et comme elle est très belle, elle devient mannequin. Et elle finit par se marier avec Errol Musk, qu'elle a connu tout petit. Et 9 mois et 2 jours plus tard, elle se retrouve avec un polichinelle dans le tiroir. Le jeune Elon naît le 28 juin 1971. C'est un bébé curieux, très énergique et très précoce. Oh ben, il comprend beaucoup de choses, hein. Beaucoup plus vite que les autres enfants, ça c'est sûr, hein. Mais c'est aussi un bébé assez distant, qui décontenance un peu sa maman. Parfois, je lui parle, j'ai l'impression qu'il n'entend rien. On dirait qu'il rentre à l'intérieur de son cerveau et qu'il est dans un autre monde. Au début, ses parents se demandent s'il n'est pas sourd. Mais non, il est juste différent des autres enfants, qui, du coup, ne l'aiment pas beaucoup. Ah ben, Elon, il est rêveur. Mais des fois, on est à côté de lui, il ne nous remarque même pas. À partir de ses 5-6 ans, le petit Elon dévore des livres. Il a toujours un livre à la main. Il peut lire 10 heures par jour. 2 livres en une seule journée. En CM2, il s'attaque à l'Encyclopédia Britannica. Une encyclopédie. Il l'engloutit en moins de 2, devenant dans la foulée une sorte de monsieur je sais tout. Quelle est la distance entre la Terre et la Lune, Elon? 390 000 kilomètres. Mais attention, ça varie en fonction de l'ellipse que la Lune parcourt autour de la Terre. Du coup, il agace beaucoup les autres enfants, surtout quand il les corrige, c'est-à-dire en permanence. Puisque c'est comme ça, on joue plus avec toi. Et donc, il devient solitaire. Et du coup, sa maman est inquiète. Elle demande à sa petite sœur et à son petit frère de jouer avec lui. Oh, mais non, maman! Il n'est pas drôle, Elon. Et là, se pose une question qui le poursuivra toute sa vie, jusqu'à aujourd'hui. Elon Musk est-il autiste Asperger ou pas? En grandissant, il est obsédé par les fautes de frappe dans les courriers, au point que s'il y a des fautes, il ne lit pas les lettres jusqu'au bout. Parfois à table, il se lève sans dire un mot et il sort regarder les étoiles. Du coup, des tas de gens pensent qu'il est autiste. Mais peut-être qu'il est seulement doué. Très, très doué. Ça existe. Elon a 8 ans quand ses parents divorcent. Au début, lui et ses frères et sœurs vont vivre avec leur mère. Mais 2 ans plus tard, Elon annonce qu'il veut vivre avec son père. « Ma maman, t'as 3 enfants, toi et papa, il n'en a aucun. C'est pas juste. » Et puis, le père a une grande bibliothèque. Et déjà, Elon a une envie. « Dis, papa, on pourrait pas émigrer en Amérique ? Moi, plus tard, en tout cas, je vivrai en Amérique. Hein. » Non, pas question d'émigrer en Amérique. Le clan Musk est en Afrique du Sud depuis 2 siècles. Le père a l'intention d'y rester. Et quand le père dit non, c'est non. C'est pas un tendre, le père. Autant la mère est dans le laisser-faire, autant lui est raide et exigeant. Il est ingénieur. Il connaît tout le fonctionnement de tous les objets. Et il amène régulièrement ses enfants sur ses chantiers. Bon, alors maintenant tu vas apprendre à poser des briques. Hein. Bon, après tu feras de la plomberie. Et puis je t'expliquerai comment on fait pour passer des fils électriques. Hein. Un jour, le père vire carrément les femmes de ménage. Eh ben vous allez nettoyer vous-même. Hein. Comme ça Elon, tu apprendras ce que ça veut dire faire l'américain. Elon est élevé à la dure par son père. Il parlera plus tard d'une forme de torture psychologique. Mais à côté de ça, il voyage en Afrique du Sud et partout dans le monde. Elon dira que son père était un homme bizarre, qui a eu des bons moments avec lui, mais que ça n'était pas une enfance heureuse. Il emploiera même le mot de « supplice ». Elon a presque 10 ans quand il voit un ordinateur pour la première fois dans une galerie commerciale de Johannesburg. Ouh là là, comme c'est bien ça. Papa, s'il te plaît, achète-moi un ordinateur. Et c'est comme ça que le petit Elon devient propriétaire à 10 ans d'un Commodore VIC-20 avec 5 kilos octets de mémoire. Et accompagné d'un petit manuel de programmation. Normalement, il faut 6 mois pour absorber toutes les leçons du manuel. Elon le fait en 3 jours et 3 nuits, même si son père n'est pas convaincu. « Oh, c'est juste bon à jouer, ça. Enfin, ça ne remplacera jamais un ingénieur. »«
Eh ben, on verra. »
C'est aussi dans ces années-là qu'Elon commence à s'intéresser aux fusées et aux explosifs, avec son frère.
« Bon, alors tu vois, tu mets du salpêtre, tu mets du soufre, et puis tu mets du charbon de bois, et ben ça fait un peu comme une poudre à canon. Et puis tu peux aussi mélanger du chlore en poudre avec du liquide de frein, et ça fait boum !»
C'est un miracle qu'il ait encore ses doigts. Elon Musk a 13 ans quand, sur son ordinateur, il invente un jeu vidéo, Blasta. Le jeu est toujours sur Internet, allez le voir. Il faut taper Blasta 1984.
C'est un jeu où on doit détruire un vaisseau spatial extraterrestre qui transporte des bombes à hydrogène et puis aussi des machines à rayon status.
Ne cherchez pas sur Internet ce que sont les rayons status. Ça n'existe pas. Le jeu est composé de 167 lignes de programme. Et Elon convainc un journal professionnel sud-africain d'en publier le code source, qui s'étale sur 69 pages. Ça lui rapporte $500. 13 ans. Dans ces années-là aussi, avec son frère Kimball, qui est devenu le complice de toutes ses aventures, il court les fêtes des mordus d'informatique de Johannesburg. Et un jour, il participe à un tournoi de Donjons et Dragons, un jeu de rôle, dont il devient accro et grand maître. Alors, vous pénétrez dans une pièce, dans un coin de laquelle vous voyez un coffre. Vous avez déclenché un piège et des dizaines de gobelins s'enfuient. Il est doué pour captiver et inspirer les gens. Et bien sûr, il gagne le tournoi. Au collège, c'est moins simple. Vous savez ce que c'est, les adolescents n'aiment pas la différence. Et le jeune Elon est un adolescent différent. L'après-midi, il est avec son frère Kimball assis en haut d'un escalier à grignoter. Un autre gamin s'en prend à lui. Et bim, il le frappe à la tête. Et il le pousse dans l'escalier. Badaboum, Elon dégringole toutes les marches. Et là, un groupe d'élèves se jette sur lui et ils se mettent à le frapper sur les côtés. Et bam, et bam. Tandis que le leader lui cogne la tête par terre. Et boum, boum. Jusqu'à ce qu'il perde connaissance. On l'emmène à l'hôpital la tête en sang. Il ne revient au collège qu'une semaine plus tard. Cet harcèlement permanent dure 3 ou 4 ans. Je sais pas pourquoi il m'avait pris pour cible. Pourquoi il ne me laissait jamais tranquille. C'était pas évident de grandir avec ça. Pendant des années, je n'ai eu aucun répit. À l'école, j'étais tout le temps pourchassé par une bande qui voulait me massacrer. Et comme quand je rentrais à la maison, c'était aussi moche. Du coup, eh bien, c'était horrible, quoi. C'était horrible tout le temps. Ça va un peu mieux quand il entre au lycée pour garçons de Pretoria. Même si son peu de goût pour le sport l'isole un peu. Et il n'a toujours pas d'amis. Même si de temps en temps, il ramène des fusées miniatures et il les lance dans la cour de récréation. Et ça, ça fait impression. Ah ben moi, je me souviens. Il parlait tout le temps de coloniser d'autres planètes. Un jour, il est dans la cour à bavarder avec son frère Kimball. Un autre élève s'approche. Salut. De quoi vous parlez? On était en train de se demander si le système bancaire avait vraiment besoin d'un réseau de guichets. Si ça serait pas mieux de passer à la banque sans papier. Drôle de centre d'intérêt pour un ado de 15 ans. Mais une fois de plus, Elon est visionnaire. Moi, honnêtement, j'aurais jamais pensé qu'il devienne milliardaire. À l'école, il n'était jamais leader. J'avoue que je suis très surpris, hein, de voir ce qu'il est devenu. Attention, ne croyez pas qu'Elon est le meilleur de sa classe. Loin de là. Dans sa classe, il y a 4 ou 5 garçons considérés comme brillants. Mais pas lui. Lui, ses notes sont moyennes. Parce qu'en vérité, il se fiche des notes. Et les devoirs à la maison, ça ne l'intéresse pas non plus. En dehors de la physique et de l'informatique dans lesquelles il excelle. Pour le reste, il a la moyenne, pas plus. Un jour, son beau-père lui explique que pour passer dans la classe supérieure, il faudrait avoir de bonnes notes. Ah bon? Ah ben je savais pas. Bon ben, d'accord. Et après, il est le meilleur de sa classe. À 17 ans, Elon Musk quitte l'Afrique du Sud pour le Canada. Sur ce départ, il donne 2 versions. Le Canada, c'était juste une porte d'entrée pour aller aux États-Unis. Mais dans une autre version, il dit qu'il a fait ça pour ne pas faire son service militaire en Afrique du Sud et pour ne pas participer au régime de l'apartheid. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il brûle d'aller aux États-Unis parce qu'il pense que c'est le bon endroit pour réaliser quelque chose. Quand il part, en 1988, il n'a rien préparé. Il n'a aucun point de chute. Il échoue dans une auberge de jeunesse et il fait des petits boulots. Il cultive des légumes, il apprend à manier la tronçonneuse. Un jour, il va au bureau du chômage. « Bonjour. Dites-moi, quel est le travail le mieux payé que vous avez à me proposer ?»«
Eh bien, écoutez, j'ai un contrat de nettoyage de la chaudière d'une scierie. C'est payé 18 $ de l'heure. »
Un travail très dur. Au début, ils sont 30 dans son équipe. À la fin de la semaine, ils ne sont plus que 3, dont Elon Musk. L'année d'après, en 89, Elon, qui a 18 ans, s'inscrit à la Queen's University de Kingston, dans l'Ontario. Et toujours avec son frère Kimball, il se lance un défi fou. Et si on appelait des gens? Des gens importants pour les inviter à déjeuner? Je sais pas, par exemple, le patron du marketing de l'équipe de baseball de Toronto. Et pourquoi pas un journaliste économique du Globe and Mail? Ouais, t'as raison, pourquoi pas? Ou alors le patron de la banque Nova Scotia, Peter Nicholson.
C'est très culotté, car ces deux gamins ne sont rien. Un déjeuner avec des gens aussi puissants, il rêve. Et pourtant...
Écoutez, je n'ai pas l'habitude d'accepter des demandes de jeunes que je ne connais pas, mais pourquoi pas?
Nicholson, le patron de la banque Nova Scotia, est d'accord pour un déjeuner. Et l'audace d'Elon est payante. À la fin, l'autre lui propose un stage dans sa banque. Et dans la foulée, Elon, toujours aussi gonflé, invite sa fille, Christy, à son anniversaire.
Bonjour Christy. Je suis très content que vous soyez venu. Asseyez-vous sur le canapé, je vous en prie. Je me suis assis sur le canapé. Et je me souviens que sa seconde phrase a été « Je m'intéresse beaucoup aux voitures électriques ». Et il m'a dit « Que penses-tu des voitures électriques ?» Il était très différent, très différent des autres. Je l'ai trouvé captivant.
Déjà, les voitures électriques.
Par la suite, on a souvent parlé au téléphone. Et une fois, il m'a dit... que s'il y avait moyen d'arrêter de manger pour travailler, eh ben, il mangerait pas. Et il a ajouté, j'aimerais qu'il soit possible de manger des nutriments sans passer à table.
Elon ne flirte pas vraiment avec Christy. En revanche, il tombe amoureux de Justin Wilson, l'une de ses camarades de l'université. Elle deviendra 10 ans plus tard sa femme, pendant 8 ans. Ça fait 2 ans qu'Elon Musk est au Canada. Et il rêve toujours des États-Unis. Et quand il rêve de quelque chose... En 1992, il a 21 ans, il s'inscrit à l'université de Pennsylvanie, l'élite des universités américaines, un double cursus, économie et physique. Et là, pour le coup, il se retrouve au milieu de grosses têtes. Et il adore. Mais il a toujours très peu d'amis, sauf un. Qui est d'ailleurs toujours son ami aujourd'hui.
Hey, dit Elon, ça te dirait qu'on prenne une maison ensemble?
Ils louent tous les deux une grande maison, qui grâce à son ami Récy, pas à Elon bien sûr, se transforme tous les week-ends en boîte de nuit. $5 l'entrée, boisson à volonté. Elon, lui, ne boit pas, il n'aime pas l'alcool. Et d'ailleurs, il n'aime pas non plus vraiment ses soirées. Mais en attendant, ça paye son loyer. Dans ces années-là, Elon Musk ne pense qu'à 3 choses. Internet, les énergies renouvelables et l'espace.
Dis, Kimball, ça te dirait qu'on aille s'installer tous les deux dans la Silicon Valley en Californie? Là-bas, Kimball, on pourra conquérir Internet tous les deux.
Et c'est là-bas, en Californie, qu'Elon Musk et son frère Kimball créent leur première start-up, Global Link Information Network, qui deviendra plus tard Zip 2.
L'idée, tu vois, Kimball, c'est de convaincre, des restaurants, des boutiques de fringues ou des coiffeurs, de s'inscrire dans un répertoire que nous, on va relier à des cartes géographiques. Bah oui, tout le monde a le droit de savoir où se trouve la pizzeria la plus proche, non ?
Il loue un bureau miteux de 45 mètres carrés. Elon s'occupe du codage et Kimball de faire du porte-à-porte pour vendre leurs services. Et pendant 3 mois, les frères Musk dorment dans leur bureau. Elon ne quitte jamais le bureau. Il y dort comme un chien dans son panier. Et quand il commence à recruter des salariés, il leur dit «
Hé les gars, quand vous arrivez, si je dors, vous me secouez, hein, que je me remette au travail. »
Au début, soyons clairs, ça ne marche pas du tout. Personne ne veut de leur service.
De la publicité sur Internet ? C'est complètement idiot.
Mais tout change quand en 1996, une société de capital risque s'intéresse à la boîte.
J'ai entendu dire que 2 gamins sud-africains tentent de réaliser des pages jaunes de l'Internet. Je vais aller les voir.
Les investisseurs mettent 3 millions de dollars sur la table. Changement de bureau, embauche d'ingénieurs de talent et surtout, nomination d'un directeur général.
Vous, monsieur Musk, vous serez le directeur technique.
C'est un moment déterminant dans la vie d'Elon Musk. Même si, de fait, il a perdu le pouvoir sur sa propre entreprise. Il n'est plus le PDG. Il n'est qu'un technicien. Mais soyons francs, c'est un excellent programmateur autodidacte. Mais la plupart des ingénieurs qu'ont embauché les nouveaux boss sont meilleurs que lui. Ils se mettent à réécrire les codes qu'il a créés. Et Musk, quand il les voit arriver au même résultat avec moins de lignes de code, ça le met dans un de ses états. Il n'y a pas que ça. Jusqu'ici, quand on demandait à Elon,
« Dites-moi, monsieur Musk, combien il vous faudra pour faire tout ça ?»
Il répondait toujours,
« Oh, je ne sais pas, une heure ou deux ?»
Les nouveaux patrons ne sont pas du tout comme ça. Ils sont moins optimistes.
Bien, quand il dit qu'il faut une heure, on va considérer qu'il faut un jour ou deux, hein. Et quand il dit qu'il faut une journée, on va considérer qu'il faut une semaine ou deux, hein. D'accord ?
Elon Musk est obligé de lâcher du lest. Mais à côté de ça, il est fier de voir grandir sa petite entreprise. Il est fier et ça lui donne confiance en lui. Lui qui déjà n'en manquait pas de confiance. Et à côté de ça, il essaye de mettre de l'eau dans son vin, d'être moins arrogant, de respecter un peu plus les autres, genre « je te comprends, je vois ton point de vue ». Mais ça ne dure jamais longtemps. Comme par exemple au cours de cette réunion autour d'un site automobile. L'un des cadres propose de procéder à un petit changement technique. Et un autre se hasarde à dire
« Moi, franchement, je crois pas que ce soit possible. Pas possible ? Ah ben moi, je me fiche de ce que vous pensez. »
Pour Elon, le mot « non » n'existe pas. Et il exige la même attitude de la part de tous ceux qui l'entourent. À côté de ça, il a de l'argent, maintenant. Et ça, il ne crache pas dessus. Il s'achète une Jaguar E. Elon a toujours vu grand. En février 1999, le fabricant d'ordinateurs Compaq Computer pose 307 millions de dollars cash sur la table pour racheter Zip 2. Musk empoche 22 millions de dollars et son frère Kimball, 15.
À partir de là,
Elon s'est consacré au projet suivant. Il est comme ça, vous savez. Sauf que désormais, il est bien décidé à garder le contrôle de ses entreprises et à en rester le PDG, même si son entourage est sceptique. Eh bien, ils ont tort. Je vais le prouver. Juste après, Elon Musk fonde X.com, il rachète son concurrent, il fusionne les deux entreprises, et ça devient PayPal, qu'il revend 1,5 milliard à eBay. Et c'est avec cet argent qu'il crée SpaceX, son entreprise de fusées, et Tesla, premier fabricant de voitures électriques au monde, et SolarCity, une entreprise de panneaux solaires, et Gigafactory, fabricant de batteries, et tant d'autres entreprises encore. Dans toutes ces entreprises, il contrôle tout, tout. Et le premier qui dit que c'est impossible, dehors. Voilà pour... cette petite histoire d'Elon Musk, la manière dont il s'est fabriqué, tirée de la biographie que lui a consacrée un journaliste américain qui s'appelle Ashley Vance, Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde, qu'on trouve en France aux éditions Erol. Et pour le débrief, je suis avec vous, Guillaume Grallet, vous êtes rédacteur en chef tech, comme on dit, au magazine Le Point, et vous avez rencontré Elon Musk il y a quelques années, c'était en 2016. Première question, est-ce qu'il se laisse approcher facilement ?
Alors, je l'ai rencontré uniquement 30 minutes, mais j'avais l'impression que c'était déjà énorme. J'avais demandé depuis plusieurs années à pouvoir le rencontrer. J'ai profité d'une des visites qu'il faisait en France, ça s'est passé au siège français de Tesla. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est... tous les paradoxes que vous racontez très bien, Christophe, on les ressent très fortement pendant cette interview. C'est-à-dire que il était venu rencontrer Emmanuel Macron, qui était ministre de l'économie. Et effectivement, il y a un mélange de concentration et d'absence de confiance en soi. Mais c'est très difficile de le voir. Pour la petite histoire, le photographe qui m'a accompagné pour l'entretien, Renaud Kahn, il m'a dit « J'ai eu 7 secondes pour faire Salman Rushdie, avec Elon Musk, j'ai eu 3 secondes. » C'est-à-dire qu'il était extrêmement entouré par des molosses qui faisaient office un peu de garde du corps. Il y avait beaucoup de gens qui nous regardaient. On sentait une tension. Si je posais des questions qui sortaient un peu du cadre, là, il y avait vraiment cette tension qui était perceptible.
Mais qu'est-ce qui est visible concernant sa confiance en lui ?
Alors,
ça se manifeste comment ?
Paradoxalement, je dirais qu'il a à la fois des excès de confiance en lui, c'est-à-dire qu'il a aucun interdit, on le voit très bien dans sa jeunesse, ça vient en partie de son grand-père, comme vous le dites très bien, il n'y avait pas d'interdit à la maison, en tout cas du côté de sa mère, ce qui n'est pas du tout le cas du côté de son père, hein. Il lui en veut encore un petit peu.
Oui, un peu, non, beaucoup.
Beaucoup, exactement, ouais. Exactement. Mais en même temps, il doute, c'est-à-dire que quelques mois avant, j'avais eu la chance de l'écouter à la Sorbonne, il donnait une conférence sur le fait que l'homme doit devenir un être interplanétaire. C'était pour lui une question de survie, il se sent habité de cette mission. Il dit que si l'homme ne fait rien, on va être détruit par un astéroïde, par des volcans, peut-être par un virus, il disait ça en 2015. Et lorsque je l'ai vu, il m'a demandé, c'était quelques secondes un peu gênantes, mais intéressantes, il disait « Mais vous m'avez trouvé vraiment convaincant, c'était intéressant ?» Là, il y avait un doute.
Ouais.
Et ce doute-là, peut-être qui vient en partie, hein, parce que c'est un homme, c'est très compliqué, Elon Musk, c'est quelqu'un de très compliqué, du fait qu'effectivement il a été bousculé pendant plusieurs années, hein. Ashley Vance le raconte très bien dans cette biographie qui est géniale. Lorsqu'il était au collège, il était différent. Sa sœur Tosca le dit elle-même, il l'a avoué très récemment qu'il était sans doute atteint de l'autisme Asperger, que eh bien il pense différemment, il s'en excuse parfois, et c'est ce mélange d'extrême confiance en soi et de doute qui est intéressant, je trouve.
Alors cette question, justement, d'autisme Asperger, dans le livre, en tout cas par Ashley Vance, c'est évoqué comme une hypothèse. Et d'ailleurs, lui tranche que sans doute il n'est pas autiste Asperger. Mais enfin, il y a quand même pas mal d'éléments qui nous font douter. Ses capacités d'apprentissage hors du commun, la séquence avec l'Encyclopédia Britannica est stupéfiante, le codage qu'il apprend en 3 jours, et puis ses difficultés de contact avec les autres, sa mère qui dit « Parfois je lui parle, j'ai l'impression qu'il n'entend rien. » On dirait qu'il rentre à l'intérieur de son cerveau. votre verdict à vous. Alors, d'après ce que vous avez dit avant la pause, lui-même dit que peut-être il est autiste Asperger.
Oui, il a reconnu dans une interview. Mais bon, comme il fait beaucoup de déclarations un peu contradictoires, on se demande un tout petit peu quelle est la vérité. Ce qui est sûr, c'est que pendant le court laps de temps, encore une fois, je l'ai vu une seule fois, mais où je l'ai rencontré, il y a eu un moment qui était absolument génial, en plus de celui où il a eu des doutes, c'est quand il a parlé d'intelligence artificielle. Et là, on voit, c'est quelque chose qui l'habite, que c'est une de ses passions, en dehors de l'obsession de quitter la planète Terre, d'aller vers d'autres planètes, celle de Mars, hein, où ils vont emmener 80 000 personnes en 2027. L'intelligence artificielle, il a des rapports très compliqués, ambigus, presque contradictoires. C'est-à-dire qu'il est à la fois co-créateur de l'entreprise OpenAI, qui est une des entreprises les plus brillantes de San Francisco en intelligence artificielle, qui va vous permettre de créer des poésies avec le style d'auteurs disparus comme Edgar Allan Poe. C'est assez fascinant.
Moi, je rêve que quelqu'un écrive comme moi. Je me contenterai de lire, même pas d'ailleurs.
Exactement. De faire des dessins aussi dans le style de certains peintres. C'est assez marrant. Et puis en même temps, il dit, l'IA, c'est notre allié, mais en même temps, c'est notre ennemi. Il va falloir nous greffer une puce dans le cerveau avec Neuralink. Au départ, dans des buts thérapeutiques, lutter contre Alzheimer, par exemple, mais surtout pour doter notre cerveau d'une meilleure mémoire, d'une plus grosse capacité de calcul.
Ça dit quoi, justement, de l'hypothèse d'un autisme Asperger?
Ce que je veux dire, c'est que il est passionné, il est habité, et surtout, il pense différemment. Il y a un autre exemple que je trouve très intéressant, il est persuadé, il pense qu'il y a une chance sur un milliard, sur plusieurs milliards, qu'on ne vit pas dans une simulation. Vous savez, c'est une thèse qui a été énoncée par un chercheur, un philosophe anglais, Nick Bostrom. Il imagine, que l'humanité, la manière dont on pense, dont on raisonne, il s'appuie sur certains ressorts de la physique, par exemple, sont le fruit de l'imagination ou de jeux de civilisations extraterrestres qui ont existé avant nous, qui utilisent des moyens informatiques, en disant qu'il y a un milliard de planètes dans notre galaxie, il y a plusieurs milliards de galaxies, pourquoi il n'y aurait pas une civilisation qui aurait existé avant nous et qui jouerait avec nous? Et ça, il en est persuadé. Donc, peut-être, pour essayer de répondre à votre question, le fait dans sa tête qu'il n'y a pas d'interdit de penser totalement différemment qui peut nous faire penser qu'il est peut-être atteint d'Asperger, mais en tout cas qu'il pense différemment, ça c'est sûr.
Je trouve l'histoire de son enfance, évidemment, très intéressante. Il a quand même vécu de gros traumatismes. C'est-à-dire qu'on peut attribuer quelquefois son arrogance et sa distance avec les autres à l'hypothèse d'un autisme Asperger. Mais à côté de ça, il a de bonnes raisons d'être un enfant différent. Parce que quand même, il dit de son père que il l'a réellement abîmé.
Oui, ça vous le racontez très très bien quand il dit « je veux être américain ». Son père congédie tous les domestiques qui travaillent dans la maison, parce qu'ils vivaient quand même plutôt confortablement, en lui disant, vas-y, fais les travaux ménagers, fais la vaisselle, fais le ménage.
Fais ton rêve américain.
Voilà, puisque tu veux faire l'américain, débrouille-toi tout seul.
Oui.
Franchement, son père l'a pas du tout encouragé lorsqu'il a voulu prendre des risques pour aller aux États-Unis. Il lui a littéralement coupé
les vivres.
Les vivres, exactement. Et donc, ça, il lui en veut encore. Ça a vraiment créé une blessure, parce que comme vous le dites, il a voulu rejoindre son père en disant « c'est pas juste, maman, elle a les trois enfants. »
Et papa n'en a pas.
Voilà, ça c'est quand même marrant, parce que c'est à la fois quelque chose d'extrêmement rationnel, hein, c'est un raisonnement qu'on pourrait dire scientifique, et puis il se fait un petit peu taper sur les doigts.
Mais c'est masochiste en même temps, c'est-à-dire il va se mettre dans les griffes de son père qui ne le rendra pas heureux.
Bah oui, et puis je pense que ça, il a toujours pas compris. C'est-à-dire que on voit qu'il a du mal parfois avec l'humain, et c'est peut-être une des explications des incohérences en réalité de son parcours.
Autre moteur, je pense, puissant, c'est le harcèlement qu'il a subi à l'école.
Ouais.
La revanche est un très bon moteur pour les gens qui veulent s'en sortir. Les gens qui ont souffert des autres ont envie de leur dire, vous allez voir, c'est moi qui serai le meilleur.
Oui, c'est ça. On sait que c'est quelqu'un de très séduisant, en tout cas qui aime séduire. Il a eu 7 enfants avec 2 femmes différentes. Il a eu le malheur de perdre un bébé qui n'avait que 10 semaines, une autre blessure. Mais il a vraiment envie de tout dévorer. C'est-à-dire qu'il peut être impatient, tout doit être possible. Lorsqu'il a rencontré Emmanuel Macron, et je lui avais posé la question, c'est assez marrant parce qu'il avait dit il ferait un très bon président pour la France, mais il disait la France, vous avez des ingénieurs qui sont brillantissimes, mais bon, c'est pas en travaillant moins de 50 heures, moins de 60 heures par semaine que vous allez y arriver.
Moins de 60.
Voilà, lui, il est plutôt une centaine
d'heures. Faut qu'on lui présente Mélenchon.
Voilà. Ça serait une bonne discussion.
Ses enfants, d'ailleurs, il m'est venu une idée en lisant le bouquin, que probablement, il ne va pas leur laisser un centime et leur dire de se dépatouiller dans la vie. C'est pas un mec à laisser un héritage à ses gosses.
Alors, c'est-à-dire que il a, sur la propriété, il est aussi paradoxal. C'est-à-dire qu'il a dit, je veux pouvoir vivre sans propriété immobilière. Il a vendu 6 propriétés immobilières à Los Angeles très récemment. Il a acheté un petit local dans le Texas. Oui. Il a dit, je vais aller habiter là-dedans. En réalité, bon, il l'a loué à SpaceX. Il continue à avoir un train de vie plutôt sympa. Oui. Et c'est vrai qu'il va vivre, il va faire du camping chez ses potes, comme Larry Page, le co-créateur de Google, lorsqu'il va autour de San Francisco. Cet appétit, on le voit aussi. Moi, il y a un mec que je trouve super intéressant. Si vous allez en Californie, il faut aller à Bucks of Woodside. C'est un café qui ressemble un petit peu à un grenier avec énormément d'objets, du bric-à-brac.
C'est grunge.
Voilà, c'est ça. Et vous avez des tenues de cosmonautes. C'est assez rigolo. Et James McNiven, donc, qui a créé ce café, qui a connu très bien Steve Jobs, qui a fait des travaux chez Steve Jobs, qui a certains points communs d'ailleurs avec Elon Musk, il m'a dit... Elon Musk, je l'adore, c'est un mec super, mais c'est pas lui qui a créé Tesla. Tesla, ça a été créé par 2 ingénieurs américains qui avaient leur bureau ici. Il est venu après. Donc, il avait effectivement cette soif de revanche dont vous parlez, Christophe.
Moi, il y a une scène qui m'a beaucoup, beaucoup plu, parce qu'au fond, elle démontre que la chance s'ouvrit aux audacieux. C'est quand, à Toronto, il décide avec son frère d'appeler des types super puissants pour les inviter à déjeuner. Et nous, on a tendance à dire, ça ne marchera pas. Et il finit par avoir un patron de banque qui lui offre un stage.
Ouais, c'est assez marrant. Et là, c'est un des points communs dont je vous parlais tout de suite avec Steve Jobs. Steve Jobs, lorsqu'il est tout jeune, il prend son annuaire et il va appeler Bill Hewlett et David Packard. Vous savez, les co-créateurs
de Hewlett Packard.
Il en a un au téléphone. Et puis, il y a ce côté, rien n'est interdit. C'est quand même un point commun chez tous ces entrepreneurs qui ont fini ou qui ont commencé dans la Silicon Valley, qui peuvent être extrêmement inquiétants, hein, côté Docteur Folamour, de jouer avec notre vie pour certains, de croire qu'on va être immortel, mais il y a ce côté, tout est permis. Il y a quelque chose qui a beaucoup marqué, encore aujourd'hui, Elon Musk, c'est ce qu'on appelle la PayPal Mafia, c'est-à-dire que c'est toute la bande d'entrepreneurs avec qui il a commencé dans PayPal et qui a essaimé dans toute la Silicon Valley. Le plus connu d'entre eux, c'est Peter Thiel, qui croit d'une certaine manière à l'immortalité, qui a conseillé Donald Trump. Il a également Luc Nocek a dit que lui, il allait se faire cryogéniser, c'est-à-dire pour pouvoir se faire réveiller dans quelques centaines d'années.
Jusqu'à devenir immortel.
Il y a ce côté, tout est possible. Donc effectivement, Christophe, il se dit, moi je peux appeler tout le monde, rien n'est interdit.
Son frère Kimball, est-ce qu'il est toujours à ses côtés aujourd'hui? On a un peu l'impression que Elon Musk n'est pas Elon Musk sans Kimball Musk.
C'est à la fois son meilleur ami, ça a été en tout cas au départ. Aujourd'hui, c'est un peu difficile à dire, hein, Christophe, mais ce qui est intéressant, c'est que il a toujours été à ses côtés, on le voit très bien et Ashley Vance le raconte très bien dans l'ouvrage. C'est lui qui va être à ses côtés lorsqu'il va se faire bousculer, c'est lui qui va parler avec lui dans les cours de récréation lorsqu'il commence à penser un peu différemment, comme elle explique sa sœur Tosca.
On dirait qu'il le protège un peu, Kimball, en fait.
Oui, il y a les deux. Il y a une protection parce que lorsque Kimball se lance dans le solaire, c'est un peu du mal. C'est aussi un des paradoxes d'Elon Musk, c'est-à-dire qu'il dit, moi je suis un anarchiste civilisé, on n'a pas besoin de l'État, on aura de moins en moins besoin de l'État, mais en même temps, il vit beaucoup de commandes publiques, et quelque part sur le solaire, c'est un petit peu ça. Il va aider Kimball, alors que c'est des affaires qui ne sont pas rentables à court terme, à prendre son envol, à réaliser
des bons. Donc aujourd'hui, ils ne sont plus côte à côte, chacun a pris...
Ils ne sont pas autant côte à côte, ceci dit, c'est pas une guerre frontale.
Est-ce qu'il aime vraiment l'argent? C'est l'homme le plus riche du monde au moment où on enregistre. Ça peut changer d'une minute à l'autre.
Ça peut changer d'une minute à l'autre. Ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin de reconnaissance et de tous les outils qui permettent d'avoir cette reconnaissance. En ce sens, le rachat, ses intentions de racheter Twitter, parce que c'est pas encore fait, sont extrêmement intéressantes. Il a été influencé, il l'a dit lui-même, et il y a une très bonne enquête du New York Times qui l'explique, par certains membres de cette mafia PayPal. En même temps, il est de loin l'homme le plus riche du monde, hein, même si ça bouge beaucoup avec les soubresauts de la bourse en ce moment. Mais il a dû, s'il va jusqu'au bout de l'achat de Twitter et s'il va mettre jusqu'à 42 milliards de dollars, ce qu'il a promis au conseil d'administration de Twitter, il est peut-être un des hommes les plus endettés du monde, parce que il a dû revendre une partie de ses actions Tesla, il a dû lui-même faire, il doit emprunter de l'argent, et puis il a mis sur gage certaines des actions Tesla qui ont perdu au cours des dernières semaines jusqu'à 25% de leur valeur. Donc on voit bien dans les déclarations qu'il fait sur Twitter, il suffit de suivre sur Twitter pour voir toutes les déclarations un peu contradictoires où il cherche peut-être à faire baisser un peu le prix de Twitter, eh bien qu'il n'est peut-être pas si à l'aise que ça financièrement. C'est quand même un autre paradoxe.
Ouais. On dit qu'il contrôle tout. Alors, il y a même dans le bouquin un truc que j'ai pas retenu parce que j'y crois pas. On dit, il dit dans le livre Ashley Vance qu'il ne se dépense pas 10 000 dollars dans ses entreprises sans qu'il ne donne son avis. C'est strictement impossible. 10 000 dollars, c'est le prix d'un boulon dans une fusée SpaceX.
Ouais, c'est pas mal comme comparaison. C'est pas mal.
Il peut pas être consulté à chaque fois qu'on achète un boulon.
Non, il peut pas être consulté. Il y a ce côté un petit peu lean startup, vous savez, c'est-à-dire la startup où on essaye de faire beaucoup de choses avec très peu de moyens. Ce qui est sûr, j'avais visité en fait une de ses usines en Californie, c'est qu'il a l'obsession du contrôle, et c'était d'une personne qui travaillait avec lui qui me l'avait dit. Alors bien sûr, il m'avait dit surtout ne le dites pas, etc. Parce qu'ils ont un peu peur quand même, pour être honnête, on le voyait bien dans votre récit. Il ne supporte pas qu'on lui dise que quelque chose est impossible, et il a quand même... Là, il est quand même sur énormément de champs différents, et il se dit... Si j'échoue quelque part, il s'est mis une énorme pression, quasiment comme celui d'un président du monde, hein. Il veut sauver l'humanité. Donc, il a cette obsession du contrôle quand même encore aujourd'hui, je pense.
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il est super jeune. C'est-à-dire que il faudra publier un tome 2 dans 10 ans.
Oui, ça bouge tout le temps. Ça bouge énormément. Comme vous le dites, il y a, même si le livre est extrêmement bien fouillé, hein, d'Ashley Vance, il y a énormément de choses qui se sont passées. On en apprend tous les jours avec lui. Il a réussi deux choses que je trouve très intéressantes, c'est mettre au point ces fameuses fusées réutilisables, et puis surtout déployer à la demande du vice-président et de plusieurs responsables politiques ukrainiens le réseau Starlink, vous savez, qui permet, et ça même, moi j'ai un copain qui...
Ce sont des satellites, c'est un réseau de satellites qu'il a positionné au-dessus de l'Ukraine pour permettre aux Ukrainiens de continuer à téléphoner.
Voilà, moi j'ai un copain qui travaille pour une ONG qui aide les gens qui ont du mal à s'exprimer dans leur pays, et bien qui disent, moi j'ai pas forcément du respect pour l'homme le plus riche du monde, mais franchement, chapeau, tous ceux qui sont en Ukraine disent que c'est absolument génial ce qu'il a réussi à faire. Donc ça, c'est quand même des choses intéressantes, on l'attendait pas forcément. Il a aussi défié, un petit coup de folie, défié sur Twitter et publiquement Vladimir Poutine en duel. Il attend toujours la réponse. C'est quand même un petit peu osé de faire ça, c'est assez rigolo.
Merci beaucoup Guillaume Grallet du magazine Le Point, et donc je vous invite, parce que c'est passionnant, à lire ce livre d'Ashley Vance aux éditions Erol, Elon Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.